par continuer l'étude de l'Église catholique au XIXe siècle. Le XIXe siècle est un siècle où les choses ont tendance à devenir mouvement de masse. Ça, c'est une des caractéristiques de l'époque moderne. Bien entendu, ça va encore s'accentuer au siècle suivant, au XXe siècle. Mais déjà, dès le XIXe siècle, on trouve ce phénomène-là. Et c'est ce qui va favoriser aussi l'épanouissement de l'Église catholique à cette période-là. L'Église catholique, au XIXe siècle, est très attaquée. C'est l'époque où la Révolution française est en train de distiller ses idées anti-religieuses et notamment anti-catholiques, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que l'Église catholique a été au centre de la contestation qui a marqué la Révolution française. Et l'Église catholique va réussir au XIXe siècle un extraordinaire rétablissement. D'abord, il y a des grands penseurs qui vont monter en ligne pour défendre le catholicisme. Citons les principaux d'entre eux, dès 1802, Chateaubriand, qui écrit donc une apologie du christianisme, du catholicisme, qu'il appelle le génie du christianisme. Pendant toute sa vie, bien que ce ne soit pas un parangon de vertu, Chateaubriand va être un défenseur acharné du catholicisme. 1814, un certain Joseph Lemestre aussi, qui lui sera l'avocat de l'absolutisme romain. Et on va arriver à ce paradoxe qu'au moment où l'Église catholique est contestée quant à son organisation monarchique, précisément, à la fin du siècle, le dogme de l'infaillibilité pontificale va couronner justement l'édifice de l'absolutisme romain. Au moment où la plupart des pays d'Europe abandonnent justement l'absolutisme romain, lui, va se renforcer. Ce n'est pas un des moindres paradoxes de l'évolution de l'Église catholique à cette période-là. 1819, le pape Pie VII rétablit l'ordre des Jésuites, qui avait été aussi contesté au sein de l'Église catholique, et il va en faire l'aile marchande de l'Église. L'Inquisition, qui avait été abolie par les armées napoléoniennes dans la péninsule ibérique, c'est-à-dire en Espagne et au Portugal, est rétablie après la chute de Napoléon. Est établie la congrégation de l'index, c'est-à-dire que une commission pontificale est nommée pour lire et étudier tous les livres qui sont publiés et ceux qui sont considérés comme néfastes aux bonnes mœurs, à la morale ou tout simplement qui attaquent l'Église catholique ou les dogmes romains sont ce qu'on appelle mis à l'index. Ça veut dire que la commission de l'index, commission pontificale, publie périodiquement la liste des livres que les catholiques pieux sont invités à ne pas lire, n'est-ce pas ? Attendu, l'Église catholique, là où elle est en force, comme en Italie, en Espagne, en Portugal, fait carrément interdire ses livres par les pouvoirs publics. Dans les pays où elle n'est pas majoritaire et où elle n'a pas le pouvoir, elle se contente d'indiquer à ses fidèles que ces livres-là ne doivent pas être lus. Parmi les grands penseurs catholiques de cette période-là, Lanmenay, qui écrit parole d'un croyant, mais alors lui qui finira par être condamné par l'Église catholique elle-même comme trop libérale. C'est aussi l'époque où, de fait, n'est-ce pas, il y a dans le catholicisme un courant libéral qui est marqué justement par les idées des Lumières et par la Révolution française et qui voudrait une évolution du catholicisme dans un sens justement qui aille de pair avec justement les idées nouvelles. Lanmenay va être un des pionniers de ce mouvement, n'est-ce pas, contre lequel la papauté va réagir très très vivement. Et Lanmenay et son libéralisme finiront par être condamnés par Rome. Parmi les grands prédicateurs, citons Lacordaire, Montalembert, Jean-Baptiste Vianney, le fameux curé d'Ars, qui développe toute une vision mystique du catholicisme. D'ailleurs, le XIXe siècle va être aussi le siècle de la mystique, d'ailleurs, en parallèle avec la mystique qu'il y a dans le milieu protestant. Le XIXe siècle va voir aussi la promulgation de nouveaux dogmes, notamment le dogme de l'Immaculée Conception. Ça veut dire que Marie a été conçue sans péché pour pouvoir transmettre cette pureté, n'est-ce pas, à son fils. C'est tout à fait intéressant de constater que cette doctrine était déjà sous-jacente depuis longtemps. Déjà un certain nombre de théologiens catholiques avaient émis cette idée, et qui avait été combattue par les plus grands théologiens de l'époque, notamment par Thomas d'Aquin, qui n'acceptait pas l'Immaculée Conception. C'est d'ailleurs assez amusant, quand on sait que Thomas d'Aquin est encore aujourd'hui le docteur de l'Église par excellence. Et puis Bernard de Clairvaux aussi s'était opposé au dogme de l'Immaculée Conception. Par contre, elle avait été soutenu par quelqu'un comme Don Scott, et puis les jésuites s'étaient fait les propagandistes acharnés du dogme de l'Immaculée Conception. C'est Pie IX qui, entre 1846 et 1878, qui sont les dates de son pontificat, établit l'Immaculée Conception comme une vérité révélée à laquelle tout catholique est tenu de souscrire. C'est aussi l'époque de Lourdes, n'est-ce pas ? Dans tout ce courant mystique au cœur duquel on trouve le curé d'Ars, il y a aussi tout un ensemble de visions, de révélations, d'apparitions de la Vierge qui vont venir à point nommé justement pour appuyer le nouveau dogme de l'Immaculée Conception. En effet, Lourdes commence justement par cette apparition de la fameuse dame, n'est-ce pas, à Bernadette Soubirous, dans la fameuse grotte qui deviendra ensuite célèbre. Et lorsque Bernadette demande à la dame qui elle est, elle répond « Je suis l'Immaculée Conception ». Ça tombe bien justement au moment où le dogme est tout à fait contesté et où il est établi. Bon, ben maintenant, il y a une confirmation, n'est-ce pas, de ce dogme. Lourdes va donc devenir un grand centre marial vers lequel des foules vont affluer jusqu'à aujourd'hui. Dans le même temps aussi apparaît, dans tout ce contexte mystique de vision, d'apparition, de révélation, le culte du Sacré-Cœur, 1857, qui va être concrétisé par la construction d'une basilique à Montmartre, dédiée justement au Sacré-Cœur, et Pie X, toujours lui, en fera une fête imposée à toute l'Église. Dans le même temps, l'Église catholique est aussi sur la défensive, et pas seulement à l'offensive, mais elle est sur la défensive. Et notamment, il y a un courant qui va aussi pénétrer dans l'Église avec le libéralisme. Le libéralisme, quand on parle de libéralisme ici, de celui de Lannemeunet par exemple, c'est un libéralisme plus sur le plan politique. La doctrine politique de l'Église au XIXe siècle est celle de l'absolutisme, de la monarchie absolue, n'est-ce pas ? La doctrine de l'Église condamne la démocratie, la République et tout ce qui va dans le sens justement de la Révolution française. Le seul régime valable aux yeux de l'Église catholique, c'est le régime monarchique absolu. Par contre, il y a un autre mouvement qui va aussi inquiéter considérablement l'Église catholique au XIXe siècle, c'est le libéralisme théologique cette fois-ci. Ce que dans l'Église catholique on va appeler le modernisme. Le libéralisme, c'est le mot qu'on emploie dans le protestantisme, mais finalement, libéralisme et modernisme, c'est exactement le même courant. C'est-à-dire que un certain nombre de théologiens commencent à mettre en doute l'inspiration de la Bible, exactement comme le milieu protestant. Il y a osmose entre le milieu protestant et le milieu catholique, et un certain nombre de théologiens mettent en doute les dogmes, les affirmations bibliques, les révélations, la question de la création, la divinité de Jésus, sa résurrection, donc automatiquement aussi la conception virginale. Bon, toutes ces choses, évidemment, vont tout à fait dans le courant inverse de celui qui est la ligne officielle de la papauté. Et le pape Pie X va, en 1864, publier une bulle qui est restée célèbre, qu'on appelle le Syllabus. Et dans cette bulle, le modernisme est condamné. C'est une condamnation sans appel. Dans le même Syllabus, le pape condamne également les erreurs du monde moderne, parmi lesquelles le socialisme, le communisme, le parlementarisme, c'est-à-dire la démocratie, les sociétés bibliques protestantes, les sociétés secrètes telles que les francs-maçons et choses semblables, la liberté de conscience, et réaffirme la primauté du pouvoir de l'Église sur le pouvoir temporel. Ça veut dire que les princes sont tenus de se soumettre à l'Église, n'est-ce pas? Donc c'est le catholicisme, on peut dire, le plus réactionnaire qui soit, auquel on puisse rêver, n'est-ce pas? Tout ce qui est justement le monde moderne est condamné. Remarquez parfois avec raison, par exemple le modernisme théologique, bien entendu, nous pouvons qu'approuver cela. Mais enfin là, il y a une véritable, comment dirais-je, fin de non-recevoir qui est apportée à la papauté, à toute l'évolution justement qui est celle du monde moderne. Et cela se concrétise par Vatican I. Vatican I, qui est convoqué en 1870, l'année où va éclater la guerre franco-prussienne, et au moment où s'est fait aussi l'unité italienne. Là, on arrive à un paradoxe tout à fait étonnant sur lequel nous allons revenir. L'Église catholique est à la fois contestée dans son pouvoir temporel. Le pouvoir temporel de l'Église est remis en question. Ce qu'elle accepte formal, nous l'avons vu, mais finalement, manu militari, les États mettent fin justement au pouvoir temporel de l'Église. Nous avons parlé la dernière fois du Kulturkampf en Allemagne, lancé par Bismarck. En Italie, c'est le mouvement qui tend à l'unité nationale qui va devenir par la force des choses anticléricales, anti-papales, anti-Église. Non pas pour des raisons religieuses ni spirituelles, bien que aussi il y ait l'influence de la Révolution française sous-jacente, n'est-ce pas, mais essentiellement parce que l'unité italienne ne peut se faire qu'à une condition, c'est la fin des États du pape. Et notamment le Garibaldi et ses partisans qui donc ont pris l'initiative de l'unité italienne, soutenue dans cela d'ailleurs par Napoléon III en France, mettre comme condition sine qua non que Rome devienne la capitale du nouvel État italien. En principe, l'unité italienne se fait autour de la maison de Savoie, Savoie-Piémont, n'est-ce pas, le roi Victor Emmanuel, qui est appelé, selon le dessein des garibaldistes, à devenir roi de toute l'Italie. Et donc, il faut l'intervention des troupes françaises pour que l'unité italienne se fasse. Finalement, Garibaldi et ses partisans entrent dans Rome. Le pape est destitué de son pouvoir temporel et devient tout simplement l'évêque de Rome. On lui laisse évidemment ses prérogatives spirituelles, mais tout ce qui est temporel lui est ôté. Et le pape va donc s'enfermer dans son palais, est chassé du palais de Latran d'ailleurs, qui était son palais, et le palais de Latran va devenir le palais des rois et des rois d'Italie, et finalement il se réfugie au Vatican. Et là, au Vatican, il se considère en exil, n'est-ce pas? Il est prisonnier, il se considère comme prisonnier. Et c'est dans ce contexte où l'Église catholique a perdu son pouvoir temporel qu'elle va retrouver son pouvoir spirituel à un degré qu'elle a peu connu dans son histoire. Ça se concrétise justement par la convocation du premier concile du Vatican, 1870, où le sujet essentiel du concile va être la proclamation du dogme de l'infaillibilité pontificale. Le dogme de l'infaillibilité pontificale était déjà sous-jacent aussi, comme beaucoup de dogmes dans l'Église catholique, mais là, il va être élaboré et proclamé comme matière de foi, et on ne peut être sauvé, selon le dogme catholique, que dans la mesure où on souscrit pleinement à ce dogme de l'infaillibilité pontificale. Le dogme de l'infaillibilité pontificale proclame ceci, que lorsque le pape, en vertu du pouvoir des clés qui lui est donné par le Christ, n'est-ce pas, parle en tant que pasteur et docteur de tous les chrétiens, seulement dans ces conditions-là, la faillibilité pontificale n'est pas quelque chose d'absolu, n'est-ce pas, mais lorsqu'il parle comme docteur et pasteur de tous les chrétiens, Le Saint-Esprit lui garantit l'infaillibilité et par conséquent, ce qu'il proclame et ce qu'il dit est à la même valeur que la parole inspirée et doit être acceptée par tous les catholiques, sinon par tous les chrétiens. Enfin, tous les chrétiens devraient le faire selon le dogme catholique, n'est-ce pas? Parce que c'est parole de Dieu même, n'est-ce pas? Étant le vicaire de Christ, et lorsqu'il parle ex cathedra, eh bien, sa parole est la parole même de Dieu, la parole même du Christ. N'est-ce pas? Alors, ce dogme-là ne passe pas facilement au Concile, n'est-ce pas? Et il y a une farouche opposition, notamment d'un certain nombre d'évêques qui sont marqués justement un peu par le libéralisme, et en particulier d'évêques allemands. Peut-être marqué par le Kulturkampf, n'est-ce pas? On est d'ailleurs à la veille de la guerre franco-prussienne et le Concile est obligé de se séparer parce que justement la guerre éclate dans ces jours-là et les évêques doivent regagner leurs différents pays qui vont être des pays belligérants. Notamment, il y a un évêque allemand, ça s'appelle le chamane de Linger, qui refuse tout net le dogme de l'infaillibilité pontificale. Et c'est alors que va se produire au sein de l'Église catholique un schisme qui dure jusqu'à aujourd'hui, un schisme de toute une partie de l'Église allemande, notamment, n'est-ce pas, mais d'autres aussi, mais surtout l'Église allemande, n'est-ce pas, d'une partie de l'Église catholique allemande, qui vont prendre le nom de vieux catholiques, parce que restant fidèles justement à l'idée que le pape n'est pas obligatoirement infaillible, même lorsqu'il parle ex cathedra, comme pasteur et docteur de tous les chrétiens. Et là donc, très rapidement exposé, on a à peu près ici l'itinéraire de l'Église catholique pendant le 19e siècle, et c'est-à-dire cette reconstruction qui va avec ce couronnement incroyable, n'est-ce pas, qui est la proclamation du dogme de l'infaillibilité pontificale. Nous avons là une évolution, si vous voulez, qui va depuis les Lumières jusqu'au romantisme. Les Lumières ont eu un effet extrêmement négatif sur la pensée religieuse occidentale, dans ce sens qu'elles ont réussi à faire taire les besoins spirituels de l'homme en ce qui concerne la religion. Et l'Église catholique, au début du siècle, prend conscience de cette situation-là. L'Église catholique a toujours su faire des analyses très pertinentes des situations qu'elle était en train de vivre, et l'Église catholique se rend compte que là, il y a quelque chose qui est en train de changer, une évolution qui est en train de changer, dont elle doit tenir compte. Et c'est alors que l'Église catholique va mettre en avant, pour contrebalancer justement les Lumières, ce qui a été son époque de gloire en Europe, c'est-à-dire le Moyen-Âge. La référence va être le Moyen-Âge. Tout au long du XIXe siècle, le Moyen-Âge va être glorifié. Et ce mouvement va aller de pair avec le romantisme. Le romantisme, qui est aussi une espèce de déception qui naît au XIXe siècle devant les promesses non tenues des Lumières, le romantisme va aussi glorifier un peu le passé de l'Europe et notamment justement là aussi le Moyen-Âge. Donc il y a une convergence, comme il y a eu au moment de la Renaissance, entre l'évolution de la pensée de l'élite, des élites occidentales et puis aussi de l'Église catholique. Et précisément cette convergence, le romantisme, va être le salut de l'Église, le salut de l'Église catholique, va lui permettre de redresser la barre après justement ce coup terrible qui lui avait été apporté au XVIIIe par les Lumières. Là, il y a un parallèle aussi qu'il faut faire avec le protestantisme. Le sort du catholicisme et du protestantisme dans toute l'histoire sont absolument liés. Quand ça va bien pour les uns, ça va bien pour les autres aussi. Quand ça va mal pour les uns, ça va mal pour les autres. Or, nous avons vu que le XIXe siècle avait été un grand moment pour le protestantisme en général. Ça avait été l'époque du méthodisme anglais, du piétisme allemand. Et on retrouve, si vous voulez, le même courant. Cette espèce de refus des Lumières, qui était très marqué, par exemple, chez un homme comme Zinzendorf, le refus du rationalisme, le refus aussi, un refus qu'on trouve chez Wesley, d'une certaine manière, et qui met en évidence, On pourrait dire, alors, pour ce qui concerne des gens comme Zinzendorf ou Wesley, le mysticisme au sens positif du terme, c'est pas le piétisme plus exactement, qui n'est pas d'ailleurs toujours exempt d'une certaine mièvrerie, d'une certaine certain nombre de lacunes, mais en tout cas qui va avoir comme comme résultat justement de faire en sorte que le religieux au XIXe siècle connaîtra une période de gloire, n'est-ce pas? Dans le catholicisme, on va avoir un mouvement parallèle, un mouvement similaire qui va être justement aussi ce mysticisme qu'on trouve avec des gens comme le curé d'Ars, avec Chateaubriand, avec Pie X, n'est-ce pas, qui sera canonisé comme un pape particulièrement saint, etc. Cette manière de faire, cette manière de voir s'oppose essentiellement aux Lumières, mais aussi prend appui sur les Lumières. Déjà, un certain nombre de philosophes des Lumières avaient un peu ouvert la voie dans ce sens-là, notamment un homme comme Rousseau. Un homme comme Rousseau, qui pourtant est un homme du 18e à fond, n'est-ce pas, père de la Révolution française, mais c'est aussi un homme qui ouvre le chemin au romantisme. Il ouvre le chemin au romantisme dans ce sens qu'il va privilégier, contre la raison qui sera développée par d'autres philosophes contemporains, que Voltaire, Montesquieu, Diderot, n'est-ce pas, lui, Rousseau va insister sur l'émotion, sur le sentiment, sur l'intuition, etc., comme quelque chose qui est finalement plus important que la raison elle-même. Et dans le romantisme et dans le piétisme, n'est-ce pas, du 19e siècle, il y a cela. D'ailleurs, c'est une des failles du piétisme, on en a parlé, n'est-ce pas, que le piétisme, dans tout ce qu'il a eu de bon, ce qu'il a apporté de très très positif, a un peu trop négligé l'aspect réflexion doctrinale, théologique, et n'a pas apporté des éléments de réponse et de réfutation suffisamment fort au libéralisme théologique, justement, qui marquait aussi cette époque. Parmi ceux qui vont préparer aussi ce mouvement, il y a le philosophe allemand Kant, qui est lui aussi profondément marqué par les idées de son temps, les idées romantiques, n'est-ce pas? Et Kant, qui publie un ouvrage qui s'appelle « Critique de la raison pure », qui exprime bien ce qu'il veut dire, n'est-ce pas, et qui lui aussi donc va insister sur le sentiment, sur l'intuition et sur une morale qui est bâtie justement sur ces éléments-là. Kant va être le maître à penser de toute une génération de théologiens protestants et catholiques, notamment rassemblés autour de ce qu'on appelle l'école de Tübingen en Allemagne, et notamment il y aura là l'évêque de Ratisbonne, qui est d'ailleurs un des professeurs à l'école de Tübingen, il s'appelle le professeur Olinger, qui va partir justement de la philosophie de Kant pour construire justement sa théologie. Et la philosophie de Kant va avoir une conséquence importante au niveau justement de la réflexion théologique catholique, c'est que à partir de l'école de Tübingen, on abandonne la scolastique. La scolastique, c'est-à-dire la réflexion qui avait été à la base de la pensée théologique du Moyen-Âge, notamment de celle de Thomas d'Aquin. Nous avons vu déjà que l'Église catholique prend des distances par rapport à Thomas d'Aquin à partir de cette période-là. Mais là, on entre dans une théologie tout à fait nouvelle. On ne se rend pas compte d'ailleurs que ce faisant, on ouvre quand même la porte au libéralisme, au modernisme que le pape prétendait combattre. Et finalement, malgré le syllabus, la digue cédera, notamment au début du XXe siècle avec Pie XI, et puis encore plus avec Pie XII. À cette époque-là aussi, l'école de Tübingen, c'est très intéressant, il y a à la fois des catholiques et des protestants, bon, qui, un petit peu comme à Strasbourg aujourd'hui, si vous voulez, dans les écoles de théologie, à la fois catholiques et protestantes. Et là, il y a une certaine osmose qui se fait, une espèce d'œcuménisme avant la lettre qui naît sur le plan théologique. Car finalement, on se trouve confronté avec les attaques de la pensée moderne. Et ce qui compte essentiellement, c'est de défendre la révélation, c'est de défendre son existence historique, de s'en prendre à l'incroyance, n'est-ce pas? Et finalement, les différences entre les confessions s'estompent. Et alors que dans les siècles précédents, jusqu'au XVIIIe, n'est-ce pas, les controverses entre catholiques et protestants étaient très vives. Il y avait souvent des débats publics, n'est-ce pas, auxquels le public prenait part avec passion. On l'a vu même en France, n'est-ce pas, après la révolution, avant la révolution, enfin après la révolution française, un petit peu avant, mais surtout après la révolution française. Une des méthodes essentielles d'évangélisation, c'était ces controverses publiques. On louait une salle et puis là, on débattait publiquement avec un prêtre catholique, n'est-ce pas. Les pasteurs protestants, souvent mieux formés, ayant des arguments bibliques, avaient souvent le dessus, et c'était une des méthodes favorites d'évangélisation. Au XIXe siècle, plus le temps passe, moins ce genre de controverse intéresse les gens. Et on va petit à petit vers la situation actuelle, si vous voulez, où les différences entre confessions n'intéressent plus personne. Le débat change, si vous voulez, d'orbite. Le point focal jusqu'alors était qui a raison, les catholiques ou les protestants, et les différences étaient mises en exergue. À partir des attaques du modernisme, ce qui est important, ce n'est plus les différences, mais c'est ce qui est commun, la défense de ce qui est commun, c'est-à-dire la réalité de la révélation biblique, l'inspiration de l'écriture, les grands faits du salut, la naissance virginale de Jésus, sa résurrection, ses miracles, etc. Voilà ce qui est en cause. Et là, dans ce débat-là, catholiques et protestants sont au coude à coude, sont dans la même tranchée, si j'ose dire, parce que justement, ils ont affaire aux mêmes adversaires. De ce fait, par la force des choses, sans l'avoir cherché, catholiques et protestants vont faire front uni dans ce domaine-là. Il y aura parfois d'ailleurs d'étonnants transferts. Par exemple, à Tübingen, il y a un professeur qui s'appelle Schiller, n'est-ce pas, qui va être un des grands apologistes, qui va polémiquer contre l'incroyance de son temps, n'est-ce pas. Et c'est un catholique. Et certains élèves de Schiller vont passer au protestantisme, n'est-ce pas, parce qu'ils sont en contact tout simplement avec des collègues de Schiller qui sont protestants. C'est ainsi que naît ce qu'on appellera le renouveau catholique du XIXe siècle. En France, la Restauration n'a pas tué les idées de Rousseau et de Voltaire, bien qu'elles aient subi un coup d'arrêt important, mais c'est la Restauration qui permet la diffusion justement de la pensée des apologistes du catholicisme, tels Chateaubriand, Lacordaire, Lannemenet et d'autres, n'est-ce pas ? Dans le génie du christianisme, Chateaubriand aborde le problème comme un véritable romantique, dans l'optique romantique dont nous avons parlé, non pas dans une controverse théologique, ni dans une justification doctrinale, n'est-ce pas, du christianisme, mais le christianisme est pour Chateaubriand le dernier refuge des sentiments les plus élevés. Donc tout est centré sur le sentiment. La véritable liberté, la véritable beauté se retrouve dans le christianisme. Et le christianisme qui va naître de ce mariage, si l'on peut dire, avec le courant romantique, va avoir un côté assez dangereux, si j'ose dire. C'est que il y a là un subjectivisme religieux qui est mis en exergue. Le christianisme n'est plus présenté comme il avait toujours été, enfin le catholicisme du moins, n'est-ce pas, comme un système de doctrine auquel il faut croire pour être sauvé, parce que c'est la chose importante, n'est-ce pas. Le catholicisme est une religion de la doctrine, n'est-ce pas. Il y a des canons qu'il faut adopter pour être un bon catholique, finalement, le faire a beaucoup moins d'importance que de souscrire à ces vérités dites révélées, n'est-ce pas. Avec le romantisme, avec Chateaubriand, avec d'autres, n'est-ce pas, c'est la priorité qui est donnée au sentiment, le beau. Et alors, on va retrouver, n'est-ce pas, cette idée, on la retrouve dans notre siècle. Elle est très forte, n'est-ce pas. Le sentiment prime, n'est-ce pas. Par exemple, une des critiques qui est faite par les non-charismatiques aux charismatiques, c'est justement que l'on met trop en avant le sentiment qui supplante la doctrine. Et cette critique n'est pas toujours infondée, loin s'en faut, quand on voit des aberrations comme Toronto, Pensacola maintenant, n'est-ce pas? C'est exactement des phénomènes qui tombent sous le coup de cette critique. Bon, ben ça, on trouve ça déjà au début du siècle avec Chateaubriand. C'est Chateaubriand qui ouvre la voie dans ce domaine-là, justement, avec son génie du christianisme et son subjectivisme dangereux, n'est-ce pas, qui émane de cela. Alors, nous avons aussi un autre élément qui va dans ce sens-là, d'un subjectivisme de ce type-là, c'est la morale sentimentale de Rousseau. Rousseau, donc, qui avait aussi ouvert la voie dans ce domaine, et mettant le sentiment comme l'élément directeur de la conscience de l'homme, n'est-ce pas? L'homme étant bon, il doit écouter ses sentiments, parce que ses sentiments sont bons. Et ses sentiments lui dictent ce qui est bien. Il n'y a plus de normes extérieures, mais c'est quelque chose d'intérieur. C'est un subjectivisme, n'est-ce pas, qui fait que chacun est le maître de sa propre morale. Les philosophes du XXe siècle, notamment les existentialistes, vont aller à fond dans cette voie-là. Et chaque individu, avec Sartre par exemple, sera invité à créer sa propre morale à partir de ce qu'il ressent. On est en plein subjectivisme, n'est-ce pas? Nous trouvons dans les milieux chrétiens aujourd'hui, y compris les milieux protestants et surtout évangéliques et surtout charismatiques, n'est-ce pas, cette aberration-là qui est à fond. Et on ne se rend pas toujours compte de qui on le tient, n'est-ce pas, de qui on tient ce subjectivisme-là, de ces deux hommes, Chateaubriand et Rousseau. L'Église est quelque peu dévaluée par justement cette mise en exergue de ce subjectivisme, parce que finalement, ce qui est important, ce n'est plus tant ce que dit l'Église que ce que l'individu éprouve et ce que l'individu ressent. Bon, c'est aussi dans ce contexte qu'intervient Lannemeunet, nous avons parlé, qui lui s'en prend à l'indifférence qui gagne de son temps et qui a pour but, n'est-ce pas, de rendre une atmosphère catholique de faire renaître une atmosphère catholique en France dans laquelle le catholicisme pourrait s'épanouir. Pardon. Il est aidé par cela par un homme qui s'appelle Montalembert, qui a pour but aussi cette promotion d'un catholicisme, mais d'un catholicisme aussi marqué sur un certain sentiment. Créer une atmosphère catholique, ça veut dire quoi? Ça veut dire justement, eh bien, reprendre à son compte ce que Chateaubriand disait. Ça veut dire le catholicisme, c'est ce qu'il y a de plus noble, c'est ce qu'il y a de plus beau. On met en exergue, par exemple, Chateaubriand a écrit des pages très belles d'ailleurs, sur les martyrs, n'est-ce pas, qui sacrifient leur vie, l'héroïsme, n'est-ce pas, des martyrs qui meurent dans l'arène, etc. Enfin bon, on essaie de mettre en évidence, disons, ben, finalement, pourquoi être croyant, pourquoi être catholique? Parce que finalement, c'est l'accomplissement des aspirations les plus nobles de l'homme. Elle comble ces aspirations-là, l'aspiration à la plénitude, l'aspiration à la beauté, l'aspiration à ce qui dépasse l'individu, ce qui dépasse l'homme, et puis qui lui permet justement de s'accomplir véritablement. C'est ça, créer une atmosphère catholique en France, n'est-ce pas? Alors, ça, son côté aussi très très discutable, n'est-ce pas? Alors, la situation en France, à cette époque-là, n'est pas brillante. On sort de l'époque révolutionnaire, puis de l'époque napoléonienne, qui avait été une transition, n'est-ce pas? Mais c'est à la Restauration que le catholicisme peut véritablement renaître. L'époque napoléonienne a été une période moins dure que la période révolutionnaire, dans ce sens que la foi en tant que telle n'a pas été attaquée. Napoléon était un homme qui était très pragmatique, lui-même n'avait pas une foi débordante, loin s'en faut, mais en tout cas, c'était un homme qui se rendait compte que il pouvait utiliser l'Église à ses fins. Et son but était celui-là. Quelle était l'utilité de l'Église dans une société comme la société française telle que la concevait Napoléon? Eh bien, cette utilité était simple, n'est-ce pas? C'était basé essentiellement sur le texte de Romains, « Soyez soumis aux autorités ». Par conséquent, le rôle de l'Église était d'enseigner au sujet de la France qu'ils aient à être soumis aux autorités, ne pas se révolter contre elles, enseigner le minimum de morale qui faisait que la société civile n'avait pas besoin de le faire. Et Napoléon, dans ce sens-là, a favorisé une renaissance catholique et également protestante et juive d'ailleurs. Mais enfin bon, juifs et protestants étaient quand même une minorité en France à cette époque-là. Il a donné le fameux concordat. Alors le concordat aussi avait des lacunes très graves au niveau de l'Église catholique, notamment le fait que l'État, notamment l'empereur en ce qui concernait la France, était au-dessus de l'Église. L'Église était véritablement une institution d'État. Et ça, la papauté ne pouvait en aucune manière l'accepter. C'était le triomphe du gallicanisme que l'Église catholique avait toujours contesté. Et il y avait en France un puissant courant ultramontain, c'est-à-dire qui était pour la primauté de Rome. Et notamment, la querelle a éclaté entre Paris et Rome sur la question des sièges épiscopaux. Napoléon voulait avoir la haute main sur les sièges épiscopaux et sur la nomination des évêques, et le pape Pie VII ne voulait absolument pas en entendre parler. Il voulait, lui, avoir cette juridiction-là, qui avait toujours été, d'ailleurs, le privilège de Rome. Alors, le conflit a éclaté entre Napoléon et Pie VII sur cette question. Bon, le concordat a été donné en 1801. Pie VII, donc, était en poste depuis un an. Il est arrivé sur le trône épiscopal en 1800. Il est resté jusqu'en 1823. Pour Napoléon, donc, la piété était nécessaire à la France et il l'a fait comprendre très nettement au pape. Et sur ce plan-là, ils se sont entendus. La religion catholique a été reconnue par l'empereur comme religion de la majorité des Français. Mais Pie VII n'a pas réussi à persuader Napoléon d'interdire les autres cultes, notamment le protestantisme. Ça, c'était un grave échec pour la papauté extrêmement réactionnaire de cette période-là. Et le culte public a été à nouveau permis, et 60 diocèses et archidiocèses ont été recréés en France. Par contre, Napoléon n'a pas voulu revenir sur un autre point qui tenait aussi très à cœur du pape, la nationalisation des biens d'Église. La nationalisation des biens d'Église était un fait accompli sur lequel Napoléon n'est pas revenu. Mais par contre, le concordat prévoyait que le clergé était fonctionnaire d'État et par conséquent était rémunéré et rétribué par l'État. Ce qui était d'ailleurs une occasion pour Napoléon de tenir aussi les choses en main, car qui paie l'orchestre choisit le morceau. En fin de compte, le concordat était un cadeau empoisonné pour l'Église catholique. Sous couleur de rétablir la liberté de culte, en fait, l'Église catholique était tenue avec une laisse très, très, très courte par le pouvoir politique. Napoléon voulait une Église à sa discrétion et unilatéralement à sa discrétion. Napoléon a aussi, pour affaiblir l'Église catholique et la papauté, a promu l'esprit conciliaire. L'idée qui était tout à fait contraire à celle de Vatican Ier, à savoir que le pouvoir de l'Église catholique n'est pas le pouvoir d'un seul homme, le pouvoir du pape, ça c'était très républicain, très napoléonien, n'est-ce pas, mais c'était le pouvoir conciliaire. Le concile est au-dessus du pape. Et Napoléon a fait en sorte que soient nommés sur les trônes épiscopaux de France des gens qui prônaient cet esprit conciliaire. Alors, ça, c'était quelque chose de très très difficile à accepter pour le pape. Plus tard, vous savez, Napoléon s'est donc proclamé empereur et s'est fait couronner par le pape lui-même. Et puis, on cite ce geste tout à fait éloquent, n'est-ce pas, au moment où le pape allait poser sur la tête de Napoléon et de Joséphine, l'impératrice, la couronne impériale. Napoléon a brisé le protocole, il s'est saisi de la couronne de Joséphine, et c'est lui-même qui a couronné Joséphine. Et ensuite, il a pris la couronne qui lui était destinée et se l'est mise lui-même sur la tête. Il ne voulait pas dépendre du pape, c'était une manière très éloquente de montrer qu'il était supérieur au pape, n'est-ce pas ? Les campagnes de Napoléon ont aussi alors eu une autre conséquence grave, qui a envenimer les relations avec l'Église catholique, c'est que dans les campagnes d'Italie, Napoléon a été amené à s'emparer des états du pape. Et donc, le pape a été tout simplement dépossédé de son pouvoir temporel. Et ça, le pape ne pouvait en aucune manière l'accepter. Un énorme conflit a éclaté entre Napoléon et le pape pour ce faire. Et en 1812, le pape a publié une bulle dans laquelle il excommuniait Napoléon pour avoir ainsi l'avoir dépouillé de ses états. La riposte de l'empereur a été rapide. Il a fait arrêter le pape et il l'a fait emprisonner en France, à Paris. Et en 1813, il a unilatéralement publié un nouveau concordat où l'Église était livrée pieds et poings entre les mains de l'empereur. Il a essayé de transférer toute la cour pontificale à Avignon, ce qui était une renouée avec le passé d'une part, et d'autre part, avoir évidemment l'Église catholique sous sa coupe, puisqu'Avignon était en France. Et le pape a durci le ton à son tour, n'est-ce pas ? Pie VII était aussi un homme extrêmement dur. C'était le conflit de deux hommes de tempérament, n'est-ce pas ? Et Pie VII est revenu sur toutes les concessions qu'il avait faites, n'est-ce pas ? Puisque c'est ainsi, il a durci la position à fond. Alors là, s'est produit un phénomène tout à fait curieux. L'Église catholique, qui à cette époque-là, n'avait pas la côte tellement, finalement. Et beaucoup d'Italiens, beaucoup d'Européens, y compris des catholiques convaincus, ont applaudi à la prise de Rome par Napoléon. Napoléon, d'ailleurs, a nommé roi de Rome son propre fils, Napoléon II, dit l'Aiglon, n'est-ce pas ? Et beaucoup de catholiques ont approuvé cela. Mais par contre, ce qui a été la maladresse énorme qu'a faite Napoléon, ça a été d'emprisonner le pape. En emprisonnant le pape, il en a fait un martyr. Et l'opinion publique s'est retournée en faveur du pape. Et ce que le pape avait perdu en influence temporelle, il a regagné à fond en influence spirituelle. Et finalement, le bras de fer entre Napoléon et le pape s'est terminé au bénéfice du pape. Le pape est sorti grand vainqueur de la confrontation alors qu'il était en fait prisonnier de l'empereur. Mais le catholicisme est apparu non plus comme une religion dominatrice, ce qui avait été justement la cause de son déclin de popularité, mais au contraire comme à nouveau une religion persécutée, une religion qui était véritablement spirituelle, puisqu'elle n'était plus encombrée de possessions matérielles. Et par conséquent, dans tout le renouveau que l'on sentait poindre à cette époque-là, n'est-ce pas, il y a eu un élan de ferveur qui est apparu, qui était aussi d'ailleurs pour des pays comme l'Italie ou comme des pays qui étaient la Pologne, qui était occupée par l'empereur, par la France, c'était une manière aussi de résister, un petit peu, si vous voulez, comme Solidarnosc a été une résistance au communisme avant la chute du mur de Berlin, c'est pas le drapeau du catholicisme a été une manière aussi de résister à la France républicaine, à la France laïque, à la France intolérante sur le plan justement du catholicisme. Et le pape martyr est sorti vainqueur. Bon, heureusement que à cette époque-là, pour l'Église catholique aussi, ce fut la chute de Napoléon, 1813, et puis ensuite 1815 Waterloo, n'est-ce pas ? Bon, de telle sorte que le pape a pu être libéré par la chute de l'empereur, il a regagné ses états, mais il est sorti en grand vainqueur, n'est-ce pas ? La chute de Napoléon a entraîné donc ce qu'on appelle le nouvel ordre européen, à savoir que les quatre puissances qui avaient vaincu la France se sont rassemblées à Vienne, le fameux congrès de Vienne, n'est-ce pas, pour redéfinir l'équilibre européen et en même temps, dans cet nouvel équilibre européen, la place de l'Église catholique a été redéfinie. Et c'est ainsi que a été traité un nouveau concordat qui intéressait tous les États d'Europe, un concordat qui était identique pour tous les États d'Europe. Seulement, ce concordat n'a pas été accepté par l'Église française en particulier. Et alors, au moment où le concordat a été élaboré à Vienne, on a assisté à la démission en bloc de toute la hiérarchie française et son remplacement par une nouvelle hiérarchie. Cette nouvelle hiérarchie a été nommée par Rome, qui a profité, justement, ça a été une erreur des opposants de Rome. Et là, c'est un fait sans précédent dans l'histoire de l'Église, n'est-ce pas? Pie VII, avec beaucoup d'habileté, a sauté sur l'occasion. Et bien loin de, il a tout simplement écarté l'ancien épiscopat français et l'en a nommé à nouveau qui était entièrement à sa botte. Et alors, on a vu ici la constitution d'une église ultramontaine, ça veut dire d'une église qui était véritablement fidèle à Rome. Le congrès de Vienne a été dominé par trois facteurs. Premièrement, évidemment, il s'agissait de revenir à fond sur les conquêtes napoléoniennes et puis les considérer comme nulles et non avenues. Ça, c'était le premier but du congrès. Et deuxièmement, on a tenu compte des intérêts de l'Église. Et dans les intérêts de l'Église, qui étaient aussi les intérêts de l'Europe en tant que telle, n'est-ce pas, il était indispensable que l'Église retrouve son influence temporelle. Cette influence temporelle était nécessaire au nouvel ordre politique européen, tant et si bien que le pape a retrouvé aussi ses états. Il est rentré à Rome en vainqueur, comme le souverain d'ailleurs, et il a fait le ménage là aussi, pas toujours très très spirituellement, n'est-ce pas? Cette mesure n'a pas toujours été très bien acceptée par les congressistes. Plusieurs congressistes se sont opposés au retour de Pie VII à Rome. Et finalement, c'est le seul entregent de Pie VII, son influence, sa personnalité, son intransigeance, qui ont fait qu'on a fini par lui accepter de lui rendre ses états. Mais on ne lui a pas rendu les biens ecclésiastiques. L'Église est quand même sortie diminuée de cette confrontation. Et la puissance autonome politique de l'Église catholique a été brisée pour toujours. Là, ça a été un tournant important dans l'Église catholique. Du côté allemand, on a essayé de créer une nouvelle église nationale. Ça a été un échec, n'est-ce pas? On ne voulait plus considérer que la puissance spirituelle de l'église et non plus la considérer comme une puissance temporelle. Ça, c'était une aspiration quand même qui montait très fort dans les peuples européens. Et il est apparu très vite après le congrès de Vienne que la renaissance des états de l'église autour de Rome, n'est-ce pas, n'était qu'une mesure temporaire et que les jours des états pontificaux étaient néanmoins comptés, n'est-ce pas? Ça, la papauté ne s'en rendait pas très bien compte, mais tous ceux qui réfléchissaient pouvaient le voir. Donc, il y a, à partir de cette époque-là, restauration d'un nouvel ordre, qui est en même temps retour à l'ordre ancien, en ce qui concerne la France en tout cas. Et la restauration qui suit le congrès de Vienne est l'époque de l'essor du romantisme. Le romantisme va se déployer à cette époque-là dans l'art, un art un peu doucereux, n'est-ce pas, où on redécouvre... vers une réaffirmation d'elle-même, de la manière dont elle se conçoit, dont elle se comprend, soit dans ce nouvel ordre européen, qu'elle veut conservateur et dont elle est un des éléments essentiels de ce conservatisme-là. Et ça, elle va le payer cher au siècle suivant, n'est-ce pas? L'Église va prendre le pas résolument du côté des partis les plus réactionnaires et les plus conservateurs, et notamment en matière sociale. C'est aussi l'époque du socialisme. Le socialisme naît alors que la condition sociale des ouvriers est absolument dramatique. L'Église catholique ne va pas comprendre cette situation-là. Et elle voit dans le socialisme et dans le marxisme qui en est la conséquence, n'est-ce pas? Elle voit une menace importante pour son autorité, pour son existence même, n'est-ce pas? Car il y a effectivement dans le socialisme, qui est greffé sur les idées de la Révolution française, une contestation non seulement du cléricalisme, mais un anticléricalisme qui n'est pas obligatoirement incompatible avec une dimension de foi, mais il y a aussi justement une contestation de toute forme de foi. Et cet aspect amène l'Église catholique à combattre le socialisme, puis le communisme avec acharnement, et pour cela de prendre le parti des plus conservateurs et des plus réactionnaires dans la société européenne. à une époque où cette influence justement du patronat en particulier est absolument intolérable et injustifiable bibliquement parlant. Ça, l'Église catholique va le payer très très cher, n'est-ce pas, parce que elle va être considérée à partir de là comme étant alliée au pouvoir d'argent, au pouvoir politiques les plus oppressifs, n'est-ce pas, et au cours du 19e siècle. Contrairement à ce qui se passe pour le protestantisme avec des gens comme William Booth, par exemple, ou Wesley, ou d'autres, n'est-ce pas, l'Église catholique va s'aliéner totalement les masses laborieuses, les masses prolétariennes qui vont constituer à la fin du siècle l'essentiel de la société européenne, parce qu'il y a désertification des campagnes et révolution industrielle. Donc automatiquement, l'essentiel des populations vont être des populations prolétaires. Et là, ces gens-là vont perdre la foi parce que justement ils considèrent que l'Église est une puissance qui leur est hostile. L'Église catholique est une puissance qui leur est hostile. Ils n'ont pas tort d'ailleurs de le considérer ainsi. Et lorsque l'Église catholique s'en rendra compte, ce sera trop tard. Elle essaiera de faire machine arrière au début du siècle, avec Pie XII, par exemple, mais l'Église catholique, jusqu'à aujourd'hui, ne réussira pas à regagner le terrain perdu. Ça, c'est une des fautes stratégiques majeures qu'a fait l'Église catholique au XIXe siècle. Donc, l'Église catholique tente à se réaffirmer en tant que puissance, n'est-ce pas, puissance spirituelle, à défaut de pouvoir se réaffirmer comme puissance temporelle. D'où, justement, Vatican I. Vatican I est la réponse aux défis du monde moderne. Le concile s'ouvre le 31 août 1869 et va se terminer donc au moment de la déclaration de guerre entre la France et la Prusse. Outre le dogme de l'infaillibilité pontificale qui n'est pas accepté facilement. Par exemple, il y aura 71 oui et 65 non. Donc, voyez-vous, ça se tient à peu de choses, finalement. Hein. Encore que ce n'est pas un concile démocratique, n'est-ce pas ? En fin de compte, le pape est décidé à faire passer, malgré tout, le dogme, n'est-ce pas ? Outre ce dogme d'infaillibilité pontificale, je vais vous lire d'ailleurs le dogme de Vatican II. Voilà ce qui dit exactement ce dogme. C'est pourquoi, avec l'approbation du Saint-Concile, nous enseignons et déclarons comme dogme de foi que le pontife romain, à qui en la personne du bienheureux Pierre, le Seigneur Jésus-Christ a dit entre autres « J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères », en vertu de l'assistance divine qui lui a été promise, il ne peut errer. Lorsque dans l'exercice de ses fonctions de docteur suprême de tous les chrétiens, il définit en vertu de son autorité apostolique ce que, en matière de foi et de mœurs, l'Église universelle doit observer comme étant de foi ou rejeter comme étant contraire à la foi. Et de tels décrets ou jugements irréformables en eux-mêmes doivent être acceptés et observés par tout chrétien dès qu'il en aura connaissance avec une pleine obéissance de la foi. Or, comme c'est la même infaillibilité qu'on peut envisager comme résidant sur le pontife de Rome en tant que chef de l'Église ou comme résidant sur toute l'Église enseignante unie en son chef, nous définissons de plus que cette infaillibilité s'étend à un seul et même objet. Si quelqu'un avait l'audace de contredire à cette définition que nous avons faite, plaise à Dieu que cela n'arrive pas, qu'il sache qu'il est déchu de la vérité, de la foi catholique et de l'unité de l'Église. On ne peut pas mieux dire, hein ? C'est clair. Outre cela, l'Église catholique rappelle l'interdiction du mariage des prêtres, l'interdiction de la communion sous les deux espèces. Donc intervient là le schisme des vieux catholiques avec le chanoine de Linger dont nous avons parlé tout à l'heure, qui recrute essentiellement dans les pays germaniques, l'Allemagne, la Suisse alémanique et l'Autriche. J'y ai encore jusqu'à aujourd'hui à peu près 250 000 vieux catholiques dans tous ces pays-là. L'unité italienne, donc, nous l'avons vu, est le résultat des idées modernes, et ça aussi, le Concile le condamne. Et le Concile met en avant les idées médiévales absolutistes. Nous avons vu que le Moyen-Âge était la référence, la norme, et on revient ici, si vous voulez, aux grandes affirmations des papes du Moyen-Âge, tels Innocent III, tels ces grands papes du Moyen-Âge, n'est-ce pas, qui avaient réussi à dominer, n'est-ce pas, à dominer sur les empereurs. Les idées libérales qui sont introduites dans les états du pape sont combattues sans pitié. Elles sont introduites par les troupes d'occupation étrangère. Et le pape y voit un parti qui lui est hostile, n'est-ce pas? Bon, par contre, un successeur de Pidis met fin à l'Inquisition, c'est Léon XIII, n'est-ce pas, qui met fin à l'Inquisition. Se créent aussi des sociétés secrètes pour combattre l'influence de l'Église catholique, notamment en Italie. Et l'Église catholique est considérée comme une puissance, est dénoncée comme une puissance violente, une puissance injuste, n'est-ce pas ? Et le triomphe de Vatican Ier n'est pas un triomphe absolu, c'est un triomphe à la Pyrrhus, n'est-ce pas, qui laisse des germes amers qui vont donner leurs fruits dans les temps qui suivent. Dans quelques années auparavant, il y avait eu une évolution dans les états du pape. Et Pie IX, en 1847, avait essayé de donner une constitution moderne à ces états. C'était trop tard, n'est-ce pas ? Le mouvement de l'indépendance italienne était déjà en marche, malgré justement l'appui de l'Autriche, qui était en principe la puissance qui intervenait en Italie. Et en 1848, la révolution éclate à Rome, comme dans tous les États d'Europe. Et le pape doit s'enfuir. Le pape est chassé, il s'enfuit à Naples, et une assemblée proclame à Rome la fin du pouvoir temporel du pape. Les domaines de l'Église sont confisqués, on retire au clergé la direction des écoles, les troupes françaises, autrichiennes et espagnoles interviennent pour rétablir le pape dans ses états. On rétablit l'ancien régime, le pape retrouve ses richesses, et il faudra attendre donc Cavour et Napoléon III pour que justement la tendance s'inverse. Et en 1861... l'unité de l'Italie est proclamée. Les états du pape sont définitivement abolis. Rome tombe en septembre 1870, au moment même où le pape proclame son infaillibilité. L'Italie reconnaît cependant le dogme, mais n'accepte plus la souveraineté du pape sur les états. La constitution italienne qui est donnée, l'Italie devient une monarchie constitutionnelle, reconnaît au pape la jouissance du palais du Latran, de l'église du Latran, pardon, et du palais du Latran, oui, du Vatican et de toutes ses dépendances, et de Castel Gandolfo. Par contre, la résidence du pape, qui était le palais du Quirinal, devient palais du roi d'Italie, et le pape en est chassé honteusement, ce qui évidemment est une terrible humiliation pour lui. L'État italien accepte cependant de lui verser chaque année une rente confortable. Le pape n'accepte pas cette rente et il va se considérer comme prisonnier du Vatican. Que dire encore de ce concile et de cette période d'évolution de la papauté? Le pape a à cette époque-là à sa disposition sur l'ensemble de la planète 700 évêques qui sont à sa disposition. Et de plus en plus, donc, il nomme des évêques qui sont ultramontains. Petit à petit, il va réussir à étouffer le mouvement de contestation, notamment en France. Le chef du parti ultramontain sera un évêque qui se nomme Dupanloup et qui va aussi amener les évêques français à voter en faveur de Vatican Ier. La centralisation du pouvoir est totale entre les mains du pape et il est difficile d'aller plus loin dans l'absolutisme romain. Il n'y a même plus de liberté en matière dogmatique. L'autorité des évêques diminue, les évêques ne sont plus que des fonctionnaires papaux. Et la diversité, le peu de diversité qu'il y avait dans l'Église catholique disparaît totalement. Alors, c'est le triomphe de l'absolutisme romain. Encore une fois, il est difficile d'aller plus loin dans ce domaine-là. Triomphe à la Pyrrhus, triomphe qui sera de courte durée, comme l'Église catholique en fera, hélas, l'amère expérience à la fin du siècle et au début du siècle suivant. Et cette désillusion conduira à Vatican II, qui essaiera de renverser la vapeur sans revenir sur les dogmes, parce que vous l'avez vu tout à l'heure, quand un dogme est proclamé, on ne peut pas revenir en arrière. Hein. Mais essayer de rééquilibrer les choses, et depuis lors, eh bien, le bateau tangue. Ça a été vraiment une victoire à la Pyrrhus. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur cette période-là.